22, vous avez des choses à nous dire, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021, qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi est-ce qu'on a « Pour some sugar on me » comme « bed » C'est associé à notre émission. C'est où la plainte que je peux faire? Il nous sexualise.
Eh oui.
Tommy!
Bon, le trafic, c'est-tu réglé sur la rive sud? Tiens, mon chum Mathieu Thomassin, chroniqueur automobile, est là. Comment ça va, mon chum Matt?
Hey, ça va super bien. Encore une fois, bon midi à tous les auditeurs et non seulement les animateurs.
Ouais, très content de jaser. Hey, je parlais la semaine passée ou l'autre semaine d'avant avec un chroniqueur automobile, puis on parlait des fameuses promesses des véhicules intelligents là, qui communiquaient les uns avec les autres, qui allaient nous garantir que dans un futur rapproché, dans le trafic, les véhicules allaient se parler l'un et l'autre, puis allaient s'emboîter les uns dans les autres, ce qui ferait en sorte que le trafic disparaîtrait. C'est pas aujourd'hui qu'on va avoir ça. Hein?
Effectivement, ça fait longtemps qu'on parle de la voiture à la voiture, d'autant plus avec la connectivité d'aujourd'hui, avec les véhicules qui communiquent avec l'Internet. Non seulement, aussi une nouvelle qui m'a quand même surpris dernièrement avec Apple, hein, qui dit que maintenant, peu importe qu'on ait le signal cellulaire ou non, les textos vont quand même être capables de s'échanger avec tout ce qui est Starlink. Uh-huh. Donc, imagine ce que ça peut faire pour l'automobile aussi, donc d'être n'importe où sur la planète, en pouvant échanger de l'information tant par rapport à ton statut automobile ou encore même en voyant certaines plaques de glace ou encore du trafic. Est-ce qu'on est à la hauteur d'éliminer le trafic? Marceau, peut-être pas. Mais il y a certains systèmes de multimédia de différents manufacturiers comme, voire même Toyota dernièrement, un genre de système de Google intégré qui était capable de voir lors de nos essais qu'on avait fait pas mal de tests de traction et qu'il y avait une plaque de glace sur une rue. Et devine quoi, ensuite il était partagé à l'intérieur du système multimédia pour dire « faites attention, ça va être glissant à cet endroit-là ». Et cette connectivité-là, elle est partagée dans le système. Donc, il y a des avancements, mais à la hauteur de ce que tu t'attends pour sauver du temps quand tu es sur la rive sud, pour traverser sur la rive nord, ça n'arrivera pas tout de suite. Là.
Non, mais parce que tu sais que les véhicules communiquent tout ensemble pour que tout le monde puisse adapter sa vitesse, exemple, dans le trafic, que tu n'aies plus besoin, parce que on va se le dire, là, puis des fois, j'aime pas ça le rappeler, parce que Pascal va dire « il y a des gens qui font ça, on ne veut pas faire peur à Pascal ». Mais il y a énormément de gens qui sont sur leur cellulaire dans le trafic, parce que le véhicule avance pas.
Ouais.
Fait que là, le 2-3 secondes qui se rendent compte que le trafic est reparti, ben la personne n'a pas avancé. Ça fait en sorte que les autres en arrière sont toutes retardées. Même affaire pour les filles qui se maquillent. T'sais. Il y a des filles, ce matin encore, des filles qui se maquillaient dans l'auto. Puis je les salue, là, puis je trouve ça bien correct. Je suis bien content là, que vous soyez super belles et super coquettes. Mais ça a le même effet un peu sur le trafic que ceux qui sont sur leur cellulaire en train de texter.
Puis je vois pas comment ils réussissent à mettre du mascara, honnêtement.
Mais ce qui est drôle, c'est que...
La perte de temps, elle est quand même énorme. Et tu as raison, parce qu'on la multiplie. Mais savais-tu que les voitures coréennes qui ont été pas mal dans les premières, si je me trompe, lorsque le véhicule en avant de toi commence à bouger, et s'il constate que toi, tu n'as pas bougé ou réagi en accélérant, il va t'envoyer un signal en te disant « le véhicule en avant s'est déplacé ». Donc ça, on le voit dans plein de voitures présentement. C'est au même titre que t'as oublié quelque chose sur la banquette en arrière. Les véhicules ainsi que l'automatisation, tout ce qui est l'intelligence artificielle aussi qui va être mélangé à la programmation, va, comment dire, combler nos grands manquements présentement. Mais pour l'instant, c'est sûr que c'est pas implanté dans tous les véhicules, mais c'est un nice to have. Et je dois avouer que à partir de 5 fois où ce que t'as pas bougé, il devrait envoyer un choc électrique dans le banc pour que tu te réveilles.
Bon, c'est peut-être un peu intense, mais effectivement, on comprend l'objectif que tu recherches. À un moment donné, faut s'en rendre compte qu'on est un danger là, en train de texter sur la route. Puis ceux qui sont dans le trafic qui textent en disant « ouais, mais mon char avance pas », ben si tout le monde pense la même affaire, puis il y a tout le temps 2-3 secondes entre chaque conducteur, ça fait une problématique. Puis tu sais, on n'en viendra jamais, Matt, puis je suis pas mal persuadé, là, parce que je regarde un peu l'aviation, comment ça se passe. L'aviation, c'est hyper technologique. On n'en viendra jamais à ne plus avoir de pouvoir sur notre véhicule. Tu sais, les véhicules qui vont se promener de A à Z là, au centre-ville de Québec, exemple, qui vont pouvoir aller partout, puis il n'y aura pas de chauffeur. Je comprends que ça peut fonctionner à certains autres endroits, endroit, mais regarde ce qui s'est passé à Pearson, à Toronto. Là. Je parlais avec un de mes collègues, un de mes chums qui travaille pour Air Canada, puis il me disait qu'il aurait pu, le pilote peut atterrir sur le pilote automatique. Sauf qu'à un moment donné, les conditions ils changent tellement d'un bord puis de l'autre que le pilote automatique dit, moi là, je ne suis plus capable, reprends le pouvoir. C'est toi qui dois démontrer au vent que c'est toi qui mène. Fait que c'est le pilote automatique qui débarque, puis c'est le pilote qui prend contrôle de son avion pour atterrir. Tu sais, on n'en viendra jamais à une conduite autonome là, à 150%. Là.
Non, ça c'est vrai. Il y a trop de facteurs qui sont très imprévisibles au travers de ça. Puis tu sais, je vais te donner des exemples, Marceau. La météo qu'on a connue dernièrement, tout ce qui est barrière de neige, tout ce qui est blizzard, non seulement l'accumulation, mais tu sais, à l'œil nu, là, nous, là, en tant qu'humains, lorsque tu arrives avec ton véhicule puis que tu vois un remblai de neige, ben, je pense que, en tout cas, je compte sur la majorité des gens qui sont capables de faire la différence entre un remblai de neige qui est juste une neige fofolle tombée, alors que ça pourrait être un remblai de neige très glacé qui a été poussé par de la machinerie. Et celui-là, en passant, on le constate hein, quand on vient pour souffler la neige avec notre bonne souffleuse, elle est beaucoup plus lourde, beaucoup plus consistante et non seulement beaucoup plus difficile aussi à traverser, voire même peut-être impossible. Donc, à quelle manière que l'intelligence artificielle ou encore l'automatisme va faire la différence dans ces conditions-là, je le sais pas. Mais c'est là qu'on a besoin encore de l'humain. On n'est pas prêt à se lancer dans de l'autonomie pure.
Mais est-ce qu'on est
prêt à se lancer dans de l'assistance? Oui.
Tu dis, on n'est pas prêt. Mais on veut-tu être prêt? Je donne un exemple. Plus on est rendu habitué aux caméras de recul, plus on est habitué à se faire dire qu'il y a quelqu'un dans notre angle mort, moins on est autonome là-dessus, moins on a les réflexes développés, moins quand vient le temps, on fait notre job de conducteur. En aviation, même chose. J'ai pas envie qu'on soit rendu là. Puis, tout le monde dit... Plus en plus, les avions se pilotent tout seuls, avec de grosses parenthèses. J'ai pas envie qu'on soit là, avec des incidents, des accidents, tout ce qu'on a vu. Encore une fois, en Arizona, il y a deux avions qui ont fait un face-à-face. J'ai pas envie que la tour de contrôle ou l'avion se conduise tout seul, puis qu'on perde nos réflexes quand vient le temps de les utiliser, qu'on les ait pas assez pratiqués. Il faut que ça soit facile, fluide, qu'on y réfléchisse plus, là.
Oui, mais tu sais, oubliez pas quand on a commencé nos chroniques automobiles ensemble, bon, il y a de ça plusieurs années, il n'y en avait pas d'automatisation dans les véhicules. Écoute, on était dans des années où est-ce que les contrôles de stabilité, les modes de conduite s'implantaient. Là, plus on avançait au travers du temps, plus on a commencé à avoir des avertissements. Voire même les véhicules aujourd'hui, là, certains véhicules comme le véhicule que je conduis cette semaine, fait une protection 360 degrés, va non seulement m'avertir aussi lorsque je décolle à la lumière verte, hein, quand mon droit il est là, si jamais il y a un véhicule qui s'en vient de côté à pleine vitesse et qui n'a pas vu sa lumière rouge à lui, le véhicule m'avertit. Il y a plein d'éléments de sécurité qui deviennent même en assistance. Par exemple, lorsque je quitte mon véhicule, si jamais il voit qu'un autre véhicule s'en vient dans l'angle mort, il va tout simplement verrouiller ma portière pour que je sorte. Est-ce qu'on en perd notre vigilance? Je vous dirais qu'on est peut-être dans une fixation où est-ce qu'on veut absolument que personne se blesse ou encore décède, ce que je comprends. Mais est-ce qu'on perd un peu le plaisir de conduite automobile, l'autonomie, voire même notre vigilance en tant qu'humain? C'est oui. Mais est-ce que l'ordinateur peut réagir plus rapidement qu'un humain à une situation dont il peut contrôler? La réponse, c'est oui. Cependant, une machine, c'est comme un humain, ça doit apprendre. Et on a encore un problème de confiance envers la machine, ce qui est totalement raisonnable. Parce que même l'humain fait encore face à des imprévus aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est très philosophique là, ce que je dis, mais on espère que les auditeurs se retrouvent.
Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, je reprends mon idée là, quand je jasais avec mon chum qui est pilote pour Air Canada. Tu sais, lui dit, dans des conditions où le vent change, un cisaillement de vent, exemple, là, le pilote automatique débarque sur l'avion quand tu es en train d'atterrir. Fait que c'est toi qui dois reprendre le pouvoir de l'avion. Parce que le pilote automatique dit « Moi, je suis plus capable, fait contrôle-la. » Fait que j'imagine que ça va être la même affaire pour ce qui est des véhicules. Parce qu'en ligne droite ou dans des petits quartiers, comme on peut voir aux États-Unis, là, des véhicules autonomes à 100%, ça fonctionne bien à une certaine vitesse. Là. Ils vont pas à 150 km/h, ces véhicules-là. Là. Ça fonctionne bien à une certaine vitesse. Mais ici, au Québec, avec toute la slotch, la neige qui s'accumule sur les capteurs et tout ça, On verra pas ça demain. Là.
Excellent enjeu. Puis ce que tu abordes présentement, là, les capteurs, la météo, le grésil, la glace qui s'accumule sur ceux-là, c'est la prochaine vidéo courte qu'on avait prévu sortir. Où est-ce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ben, le véhicule a besoin de voir et aujourd'hui, il nous donne un avertissement s'il n'est plus capable de voir. Si son avertisseur de collision n'est plus fonctionnel, le véhicule va nous le dire. Et avant, on avait juste un indicateur que ça marche pas. On n'avait pas nécessairement de détails, mais dans les derniers véhicules qu'on a essayé dernièrement, dont ceux-là de Mazda, ben ça nous dit que le capteur avant, à cause de la météo, est non fonctionnel. S'il vous plaît, dégagez le capteur. Donc, l'ordinateur est quand même capable de non seulement d'effectuer un diagnostic, s'assurer que ça marche pour son autonomie, mais non seulement aussi te donner la solution pour le réparer très temporairement ou encore te dire exactement quel matériel est défaillant.
T'sais, j'ai Mathieu numéro 2 là, qui m'écrit par texto. Pascal lui a répondu. Il dit, c'est rendu que je suis tellement lâche avec la conduite, avec l'aide à la conduite, que je fais même plus mon angle mort depuis que j'ai mon avertissement d'angle mort sur mon véhicule.
J'ai répondu que c'était pas bon, mais honnête.
Ben écoute, je refais un parallèle. Le CX-90 que je conduis cette semaine, dans le panneau d'instruments au niveau des afficheurs vraiment central au niveau du conducteur, est capable de me montrer à quel endroit il y a un véhicule qui se cache dans mon angle mort et non seulement un peu la distance de celui-ci et voir même s'il va me dépasser ou encore si vraiment il est en décélération. Et si jamais il y a 4 véhicules autour de moi, devinez quoi, je vois 4 petits carrés qui démontrent les véhicules qui sont autour de moi. Est-ce que ça m'invite à ne plus regarder dans mon angle mort? Probablement. Est-ce que c'est quand même fiable, ce système-là aussi? Donc, je suis dans un paradoxe. Je dois cependant vous dire que si vous tenez à votre sécurité, prenez quand même le temps de faire une double vérification, car on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise analyse d'un système aussi ou d'une défaillance d'une petite lumière comme ça. La journée que sa lumière va brûler dans le miroir, il va faire « Ah, OK, ben, il n'y a personne. » Puis en réalité, ben, la lumière est brûlée, là, il va avoir un coucou qu'il y a quelqu'un. Donc, il faut faire quand même attention à peut-être ce qui est moins prévisible aussi. Là.
Les amateurs de F-150 vont être un peu déçus parce que la sortie du prochain Ford F-150 semble être retardée.
Effectivement, on devait avoir un nouveau F-150 du côté de l'année 2027. Il y en a qui vont me dire « Ah, mais là, c'est loin ». Mais n'oubliez pas souvent que pour un modèle 2027, c'est annoncé en 2026, donc on aurait dû avoir des nouvelles au courant de l'année prochaine, mais on retarderait d'une année pour sa prochaine mouture, selon ce que les dirigeants de Ford nous ont dit. Il faut dire qu'on se dirige vers la 15e génération. C'est un véhicule qui a énormément d'histoire. Il faut dire que ça fait quand même un petit bout de temps là, que le produit avait quand même reçu une certaine mouture complète. Faut pas oublier qu'en 2024, on a quand même retouché là, d'importantes mises à niveau là, qui restent quand même une bonne impression là, du côté du F-150. L'autre chose aussi qui est extrêmement importante puis que ça joue là-dessus, c'est la politique. Hein, la guerre économique dans laquelle on est en train de brasser tout ça. N'oublions pas que le président américain il avait déclaré qu'il y avait des tarifs de 25% sur l'aluminium et non seulement de l'acier. Et question, en quoi donc se vante Ford que le F-150 est conçu en, justement, grade d'aluminium, on dit un grade militaire, mais je vais être franc avec vous, là, c'est plus le grade ouvre-boîte, tant qu'à moi, là, si jamais vous avez un impact dans le côté. Il y a quand même une raison aussi qui est autre, qui est possible, ben, tout ce qui est l'électrification, hein, on le sait, le Ford F-150 Lightning a quand même connu du succès.
Ouais.
Faut pas oublier que faut qu'on ait beaucoup, beaucoup d'argent dans la caisse pour amener une nouvelle mouture de cette version-là. Et c'est des plateformes qui coûtent des milliards de dollars à développer. Donc, on risque quand même d'avoir des nouvelles bientôt, mais pour l'instant, tout ce qui est relié à un objectif clair au niveau du manufacturier, soit il faut réduire les coûts, il faut améliorer la qualité. Hey, en passant, la qualité des véhicules aujourd'hui, là, je vous le dis, pour certains manufacturiers, on a reculé et là, on commence à reculer trop. Donc, n'oublions pas aussi que les grands manufacturiers de camions, ils font des camions depuis des années, voire même des décennies. Qu'est-ce qu'il fait qu'ils ont de la misère à faire une camionnette qui est fiable, qui va tenir au travers du temps, qui pèlera pas en peinture et qui surtout va être capable de pas sauter aucune transmission, aucune motorisation? Ça commence à avoir beaucoup d'importance quand le client commence à mettre beaucoup d'attentes là, par rapport à ceci. Donc, on a hâte de voir la direction, mais une chose est sûre, faut avoir les reins solides pour développer un nouveau véhicule comme ça, d'autant plus que c'est le véhicule le plus vendu souvent en Amérique du Nord. Bien entendu, du côté des camionnettes, c'est un véhicule fort de Ford.
On a-tu encore à Québec la seule station d'hydrogène à l'est de Montréal?
Et effectivement, je te dirais que nous, du côté de Québec, et c'est très particulier, hein, c'est le genre de pompe que tu espères que ça marche quand ça arrive sur le boulevard Amel, effectivement, le proche de la SAC. Et
On a quelqu'un en commun, toi et moi, qu'on connaît bien, qui a eu un véhicule à hydrogène. Il a dû descendre le prix comme pas possible. Ça a pris des mois et des mois à revendre. Y a-t-il encore des entreprises de voitures qui croient en l'hydrogène?
Ben, il y a encore effectivement des entreprises comme Toyota ne lâche pas le morceau présentement. BMW aussi y croit encore. Et si je ne me trompe pas, Honda aussi encore y croit de leur côté. Et qu'est-ce qui arrive avec l'hydrogène? Bien, c'est qu'on continue le développement. Toyota, d'ailleurs, a dévoilé la troisième génération de sa technologie de pile à combustible pour ça. De leur côté, qu'est-ce qu'ils disent? Bien, c'est sûr qu'ils veulent toujours faire connaître le plus possible l'hydrogène pour démontrer que c'est une alternative très intéressante et verte. Mais non seulement on commence à parler de plus en plus que ça s'adresse peut-être à des véhicules lourds, les camionnettes légères, et plusieurs applications qui pourraient être un peu plus de type commercial. C'est lors du salon, le H2EFC Expo qui est tenu au Japon, que le constructeur a fait l'annonce. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un meilleur rendement énergétique qui serait amélioré de 20%. Fait qu'automatiquement, meilleure autonomie un peu si on veut. Mais non seulement aussi, on cherche énormément à réduire les coûts. Parce que tu l'as dit tantôt en introduction, le véhicule, présentement, la Toyota Mirai, elle était extrêmement chère, elle l'est encore chère. Et la problématique, c'est que si tu penses garder ce véhicule-là à court terme ou faire une location, ben tu te ramasses avec un véhicule qui ne vaut pas rien. Pourquoi? Avec une seule station de distribution du côté de Québec, tu viens d'éliminer un paquet d'acheteurs potentiels. Puis c'est pas que le véhicule est mauvais. Au contraire, le véhicule est très intéressant et solide, démontre quand même une fiabilité intéressante. Mais avec ces composantes-là, l'hydrogène fait peur à n'importe quelle personne. D'où pourquoi notre ami en commun, je ne sais pas comment l'histoire s'est terminée, mais quand j'en regardais ça sur Marketplace, ça me fendait le cœur de voir le prix. Là, ouais.
Il m'a dit qu'il l'a vendu, mais il était content de l'avoir vendu.
Il y a quelqu'un qui dit « Mon père a modifié son pick-up, il roule au propane et c'est très économique. Oui. Ça prend une formation pour le faire. »
Ah ouais.
Qu'est-ce que c'est ça?
Oui, parce que tu dois trimballer tout ce qui est le côté propane, formation, non seulement les petits panneaux d'affichage, comme de quoi certains véhicules font du transport de cette matière-là et l'utilisation qui est commerciale. Donc, en gros, c'est que tu vas ajuster tout simplement. En passant, là, le propane est un gaz au même titre que l'essence régulière dans lequel il peut avoir une combustion pour faire fonctionner un moteur. Le meilleur exemple que je donne toujours, les gens se promènent au Costco une fois de temps en temps, voient la génératrice et se rendent compte qu'elle peut fonctionner à l'essence, mais non seulement aussi au propane. Puis en passant, le propane, ça paraît pas, mais l'efficacité, elle est quand même assez bonne. Lorsqu'on combine une mécanique régulière d'un camion à du propane, on est capable de faire une bonne économie au niveau de l'essence, surtout si on fait beaucoup de kilométrage et énormément de travail aussi. Demandez pas des chiffres précis, là, je les ai pas toutes, incluant aussi le coût de la transformation, c'est pas donné, mais j'entends beaucoup de gens qui font du commercial, du transport, de la route énormément. Tu sais, le genre de camion que tu veux garder pour 600 000 km, qui vont aller vers ces systèmes-là, parce que pour eux, l'électrique, ça fonctionne pas, le hybride, ça fonctionne pas, mais d'avoir cette mécanique-là combiné au propane, va réussir justement à répondre à ce qu'ils ont besoin, c'est-à-dire une économie d'essence substantielle.
Le CX-90, moi, c'est un véhicule que j'ai dans ma ligne de mire. Là. Ça va être probablement mon prochain véhicule. Ça va être un hybride. Je vais avoir besoin de ça. Puis j'essaie de me convaincre qu'il faut que je paye le prix. Toi, tu l'as essayé cette semaine. Comment tu l'as trouvé?
Oui. Je trouve le véhicule encore excellent. Je trouve le véhicule qui se démarque côté style. Tu as vraiment une touche de luxe impressionnante du côté de Mazda. On a quand même fait un excellent bond. Et c'est-à-dire aussi qu'on a une mécanique donc qui vient combiner le tout à une batterie électrique pour qu'on soit capable de faire une autonomie là, purement sans faire fonctionner la mécanique générale d'environ, je te dirais que ça varie, dans les meilleurs temps, d'environ une quarantaine de kilomètres. OK? Mais ce qui est intéressant, c'est que le combiné de cette motorisation-là développe 323 chevaux puis 369 livres-pieds de couple. On est capable d'avoir un véhicule qui transporte la famille et qui, en général, dans des pleines conditions froides d'hiver, comme on a connu dernièrement, tempête et tout, qui vont faire aux environs de 9 litres au 100, ce qui est un gros « wow » tant qu'à moi. OK? La seule chose, c'est que si on a l'intention de rouler en mode purement électrifié en plein milieu de l'hiver, c'est très compliqué parce que le véhicule, il est un peu capricieux quand il va commencer à faire froid. Donc, vous allez avoir un peu plus un véhicule hybride en hiver, mais c'est sûr que l'été, vous allez être capable de faire fonctionner uniquement avec son mode électrifié et aller chercher là, vos 40-42 km. Pour la famille, c'est intéressant parce que c'est un véhicule qui a un très bon gabarit, quand même capable de remorquer 3500 livres. Et je te le dis, là, le toucher, l'intérieur, voire même la petite ligne mauvette au niveau des lumières, le côté profond des peintures de Mazda, l'odeur même du véhicule sur lequel on a joué, nous amène dans un véhicule de luxe qui est beaucoup plus à caractère sportif qu'à caractère familial, comme le serait un peu plus là, la compétition là, dans des marques japonaises.
Il y a de la place pour des poches de hockey?
Il y a de la place en masse pour des poches de hockey. Tu pourrais même amener notre ami commun qui n'a plus de véhicule à hydrogène là, le temps qu'on le dépanne. Il n'y aurait pas de problématique. Là. Même une bonne équipe là, de boys là, serait capable d'embarquer là, un bon trio, comme on dit à l'intérieur de ce véhicule.
Une bonne équipe de boys.
Non, mais j'ai apprécié.
Qui joue au hockey.
Ouais, c'est ça. Mais j'ai apprécié, Matt, que tu dises que tu choisisses quelqu'un que je pourrais embarquer comme un ami. Mettons cet ami-là qu'on a, toi et moi, en commun, mais que tu nommes pas Pascal.
C'est ça. Puis après ça, il a continué avec une équipe de boys.
Une équipe de boys.
Je pensais qu'on était plus proches, toi et moi, Matt.
Un CX90 hybride, ça vaut combien à peu près?
C'est sûr que c'est vraiment pas donné. Puis là, on va être franc avec vous, tout le monde. Là, les véhicules partent un petit peu plus que dans 62 000 $ PDSF, là, si je me trompe pas. Et la version, bien entendu, la plus équipée, va les toucher dans les alentours de 70 000 $ Ce n'est pas donné. Mais devinez quoi? Quand vous recherchez un véhicule comme ça, trois rangées, sport utilitaire, qui touche le luxe présentement, quand vous regardez dans des marques pas mal allemandes, parce qu'on se rapproche de plus en plus du côté de Mazda, la facture, elle est encore plus haute. Si vous recherchez un véhicule économique qui se démarque, puis en passant, j'en vois pas mal sur les routes, donc les gens doivent trouver ça intéressant. Seule chose à l'intérieur que je ferai une petite amélioration, c'est sur le système multimédia. Puis, bon, tout ce qui est le levier de transmission qui a vraiment l'air d'un petit mognon. En tout cas, je vous enverrai une photo, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Mais autrement, c'est plus rapide qu'une version à essence et à avoir la possibilité de le brancher puis de pas avoir une borne qu'on a dépensé 2-3 000 pour. Écoute, entre 12 heures et 15 heures, c'est totalement rechargé cette batterie-là sur une prise régulière, fait que c'est pas trop gros comme on dit, donc c'est intéressant pour ça. Ouais.
Question super pertinente d'un auditeur au 418-971-1021. Le gars est programmeur en automatisation et il dit « Salut, je voudrais savoir à quoi ça sert de mettre des bébelles de sécurité quand les compagnies d'assurance augmentent constamment les primes parce que ça coûte plus cher à réparer et que de toute façon, on doit rester conscient et vigilant. Pour moi, c'est un vrai gaspillage d'argent. »
Ouais, là, il y a une réflexion globale sur l'ensemble de la planète. Hein. On s'entend que c'est pas tous les véhicules qui sont flambant neufs et équipés de ça. On s'entend aussi que c'est à se demander des fois comment les gens ont obtenu leur permis ou si même ils en ont un valide. Hein. On les spot assez vite. Là. Celui qui met des flasheurs là, pour se tasser dans la voie d'accotement en pensant que c'est une voie là, quand tu montes sur Capitale, là, pas mal dans le haut de Beauport. Je vais être franc avec toi, là, je regarde un peu croche. Je me demande où est-ce qu'ils ont obtenu leur permis. Et souvent, c'est pas nécessairement nous hein, qui créons l'impact, mais souvent, c'est des véhicules qui sont pas équipés de rien, qui sont en décrépitude et non seulement qui roulent avec des savons comme pneus. On a un travail global à faire attention aux véhicules autour de nous et non seulement arrêter de coller au cul parce que de ce temps-ci, ça n'a pas de sens.
Ouais, en lien avec les capteurs, des fois, qui peuvent s'encrasser avec la slotch et tout ça là, pour la conduite automatisée, il y a Jeff qui nous a écrit tantôt, il dit « Mon F-150 couvert de sel après 1200 km de route, les capteurs pour les angles morts n'ont pas allumé. » Il a dit « J'ai fait un méchant saut. »
Ouais, mais c'est ça l'affaire. Faites attention, hein. Le côté automatisme, le côté système de sécurité est là pour vous donner un coup de main. Mais si vous voulez garder vos réflexes bien aiguisés, continuez de vous entraîner à faire vos angles morts et non seulement de douter du système une fois de temps en temps.
Je me sens maîtresse d'école, puis je me sens pas dans l'ouverture d'esprit, là, mais je le comprends pas, ça. Se fier à 100% là-dessus, pas continuer de le faire. Je veux dire, je suis passagère, puis je gosse parce que je fais l'angle mort avec le conducteur. Tu sais, je le saisis pas, ça.
Ouais.
Ben,
quand j'étais honnête,
règle,
je l'ai dit, je suis passagère, je gosse.
Parce que...
pas juste quand t'es passagère.
Prépare ta règle pour tes punitions, parce que comme tu viens de voir, il y en a qui se fient juste à ça. Donc peut-être qu'il sait qu'il y en a qui méritent quelques corrections.
Que les fautifs s'en viennent.
Matt, pour les gens qui veulent en savoir plus sur le merveilleux monde de l'automobile, question auto, car question sur YouTube?
En plein ça directement. Allez voir sur YouTube, non seulement la page Facebook de Question Auto, la dernière vidéo que j'ai publiée, c'est moi qui fais l'essai de la balayeuse à l'intérieur de la Toyota Sienna. J'avais amené le petit firmin, puis le petit firmin a fait un bordel avec ses céréales en arrière du char. Bon, on a pu vous montrer comment la balayeuse sert, si jamais vous en voulez une.
Il s'appelle-tu Firmin pour de vrai?
Ouais, c'est des personnages que je crée, mais si tu te rappelles, Firmin est un personnage intéressant d'une série du passé que je te laisse googler. Mais tu vois, des fois, je vais chercher des noms comme ça quand je fais mes vidéos. Les gens sont toujours intrigués. Donc, on l'a appelé Firmin pour de vrai, ouais.
C'est juste que de l'appeler Firmin en 2025, il y a de fortes chances que quand lui deviendra adulte, sa sexualité, ça va être un peu plus longue avant qu'il la découvre. Là.
C'était tellement pas
ouais, mais dis-toi que ma gang de montage de vidéos, moi, je voulais l'appeler le petit Jérémy, mais on m'a coupé ça, fait que on est allé avec Firmin.
Bon, ben, super, les gars, on a pris la route. Merci beaucoup pour votre passage.
Il y a combien de Tinder, il y a combien de Firmin qui score sur Tinder? Ça serait une bonne statistique.
Prends le clou avec ton char, là, Yannick, là. Raccroche.
Bon, ben, Matt, on va raccrocher, on va dire des niaiseries. Quoi qu'on avait déjà bien commencé.
Take care, bon après-midi tout le monde.
Salut, l'excellent Mathieu Thomasin.
Oui. C'est quand tu switches?
Quand je switch...
De voiture?
Je t'aveugle, sérieusement, là, avec mon véhicule qui n'est pas du tout adapté à trois personnes, mm-hmm. Surtout trois personnes qui partent la fin de semaine pour des tournois de hockey et tout ça. Je l'avais acheté pour le look... pour le fait que je pouvais enlever toute la toile puis avoir comme tu sais moi c'est un Jeep Wrangler fait que l'été j'enlevais la toile puis je tripais là. Ça faisait décapotable un
j'ai
peu.
Adoré ça, j'ai eu ça 3 ans puis j'ai eu de la peine à m'en départir.
Quand je pars la fin de semaine avec le linge des gars dans un sac non. Plus 2 poches de hockey plus les 3 bâtons de hockey
t'as
plus
4 portes ou 2 toi?
J'en ai 2.
C'est ça que j'avais aussi. Puis pour vrai, même un de mes chums avait de la misère à embarquer en arrière. Là.
Ouais.
Je suis monté au Saguenay avec les deux. Là. Puis plein de stocks de camping. Là. Ben, je sais pas comment tu fais chaque week-end.
Moi, c'est
avec
les gars qui ont
tout.
Choisi ce char-là. Fait que je l'ai acheté. Mais tu vois, aujourd'hui, ils me disent qu'ils aimeraient ça avoir la même affaire, mais 4 portes. Là. Lui, eux autres, ce qu'ils trouvaient, c'est qu'il était surélevé puis il était tout petit. Ils trouvaient ça vraiment nice. Moi, je l'ai essayé. J'aimais la conduite puis j'avais bien du plaisir. Mais là, on dirait que je suis un peu.
Ben, 2 portes.
Mon trip
là.
Est pas mal passé.
Y a-t-il encore des gens qui aiment ça? Je comprends le look sportif, mais 2 portes pour moi.
Ah,
là...
mais célibataire, sérieux. C'est, moi, c'est le char de rêve.
Ah, mais non, mais quand tu mets ton. Je comprends, sûrement tu fais pas ton épicerie, là. Toi, tu commandes la pizza congelée à chaque
non,
fois.
Non, mais...
même
là, tu couches les 2 bancs en arrière, là. Ça fait comme une grosse place
un
pour
grand
mettre tout
coffre,
ton stock.
Oui, mais je sais
c'est
pas,
un 2 places.
C'est tellement gossant, là, un 2 portes. Tu essaies de mettre ton stock, ou tu baisses quand même ton banc passager. Il y a rien de le fun là-dedans. Je comprends pas quelqu'un que ça l'importune pas quand il y a ça. Importuné, est-ce que tu connais ce mot-là?
Oui, okay. Christian, il dit finalement, Pascal, c'est un pare-feu.
Je sais. Je trouve ça dur des fois.
On me dit trop drôle, Yannick.
Ah, où ça? J'ai pas vu ça, moi.
Ah, j'ai un nouvel ami.
Ouais. Je cherche encore, là.
Sa blonde n'était pas dispo pour passer l'aspirateur. Haha, genre de commentaire à Yannick.
Là, gang, c'est jeudi, là.
Haha, moi aussi, je suis la passagère gossante qui check tout comme si je conduisais moi-même.
Une autre.
J'imagine que c'est célibataire, elle aussi. Moi, j'ai enlevé la banquette arrière. C'est ce que je devrais faire, Pat.
T'as ri de ta joke, là?
Oui.
Raccroche.
Courte pause, on revient. Boulevard 102. Évasion.com. Bon, t'en as fait bien rire tantôt des gens quand tu disais que c'est toi qui faisais les angles morts quand t'étais assis côté passager, quand t'étais dans un véhicule. Il y a Julien qui nous écrit, il dit « Faites-vous-en pas, ma blonde parfois est assise à côté de moi sur le côté passager, puis quand je conduis, et lorsque je fais de quoi, elle pèse sur une pédale à frein imaginaire quand t'es stressée. »
C'est cute quand elle est stressée à frein!
Ouais.
Moi, je pogne la petite poigne, là, ouais. Tu sais, la poignée, là,
ouais.
Quand il y en a, là, comme si ça allait me sauver de tout accident.
Ben oui, je
m'accroche.
Que... Mais si c'est là, ça doit être pour une raison, là.
Je sais pas laquelle. Tu sais, à quel moment t'es de même? le bras en l'air, sa poignée, à part quand t'as peur.
Des ingénieurs qui ont pensé à ça. Des ingénieurs
qui
ont pensé.
Je vais taper, continue.
Ce qu'il dit, c'est sinon, ce que j'aime, c'est lorsqu'elle vient pour prendre une gorgée de quelque chose sans paille et je break sec.
Mais voyons, c'est smart, Julien. Vraiment, t'as sûrement une belle Saint-Valentin.
Il dit, moi, c'est pour accrocher mes vêtements.
C'est vrai qu'il y a un petit crochet.
Ouais, c'est ça. Hey, je vous parle de quoi? Je vous parle de la belle gang de Marlin Chevrolet Buick GMC. Des gens que j'adore. C'est une nouvelle administration, soit dit en passant. Pour tous ceux qui ont été chez Marlin dans les dernières années, vous étiez satisfaits, bien, sachez que maintenant, vous allez être plus que satisfaits avec la nouvelle administration qui vient de rentrer dans place. Les employés sont redynamisés chez Marlin Chevrolet Buick GMC. On vous offre aucun paiement pendant 90 jours au financement sur nos Equinox EV Blazer. Ou Hummer aussi, tout ça c'est électrique. Puis si vous voulez pas l'électrique tout de suite, ben il y a pas de problème, on a pensé à vous autres aussi. Obtenez un taux de financement aussi bas que 0% sur nos modèles les plus populaires tels que les Silverado et Sierra 1500. Une seule adresse, 2145 rue Franck Carrel chez Marlin Chevrolet Buick GMC. Allez dire un petit coucou de ma part.
Hey, c'est vraiment pour se tenir en cas de mouvement brusque, fait que c'est sûrement ça va être vraiment genré, mais sûrement une femme qui a pensé à ça, là. C'est écrit « Les poignées de la voiture servent à se tenir, surtout dans les courbes, si elles sont prises plus vite que la normale ou encore lorsqu'un conducteur roule trop vite. » C'est inventé majoritairement. C'est pour ça, il y a quelqu'un qui disait pour les personnes à mobilité réduite et autres. J'ai pas vu ça, là, moi, dans les explications.
Il y en a qui peuvent prendre ça pour sortir du char.
Ouais, mais c'est de façon concrète. Ça a été pour se tenir, ça roule trop vite.
Je l'ai déjà fait. J'avais un char qui était quand même assez bas. Puis pour me sortir du char, me donner un swing, je prenais un poignet.
Mais là, c'est vraiment pour les mouvements brusques, la vitesse. Fait que soit c'est une femme par peur, soit c'est un homme pour qu'ils disent « Tiens, poignet, bébé! »
Classique. All right. On vient.
C'est pas parce qu'on te parle pas.